Et là-bas, eh bien, c'est une émission qui vient de tellement loin que c'est juste à côté. Chers auditeurs de Radio Sud et auditrices également, je suis pour le moment à la brasserie Jean Goulf. C'était une autre brasserie connue également sur le territoire de Villers-d'Orval. Alors celle-ci est plus petite, mais très intéressante. Et alors on m'a fait la gentillesse de m'accueillir ici pour une petite visite. Hein. Bonjour.
Bonjour.
Donc voilà, ici c'est la brasserie Jean Goulf. Pourriez-vous nous raconter en quelques mots un peu l'histoire de cette brasserie?
En quelques mots, oui, on va essayer. En quelques mots, on est quatre copains au tout départ à avoir créé cette brasserie. D'abord en barbotant dans les casseroles dans ma cuisine, il y a à peu près 11 ans maintenant. Et puis voilà, au fil des années, à force de la faire goûter, on s'est rendu compte qu'elle plaisait plutôt pas mal. En l'occurrence, la première qu'on fait encore maintenant, notre Jean Goulf blonde. Et puis voilà, ça nous a amené au fil des années à passer de casseroles de 10 litres à 50, et puis 100, puis 200, 500. Comme beaucoup connaissent aussi cette façon de fonctionner, qui sont développés à peu près de la même façon que nous, je pense.
Et là, c'est des cuves de 500 litres maintenant, ou encore plus?
650. Donc voilà, pour en sortir à peu près entre 550 et 600, oui.
Ah oui.
Donc ça reste assez petit quand même, mais bon, voilà, on prend toujours autant de plaisir à le faire. Ça reste à échelle bien humaine, on va dire.
Alors pour l'anecdote, Jean Goulf, c'est le saint du village, hein?
Tout à fait.
Alors on ne va pas dire le saint de quoi il est, parce que c'est un peu...
Saint patron des maris aimants.
Oui.
Voilà.
J'ai entendu une autre version,
mais on va la laisser comme ça. Mais après, je pense que oui, voilà. Après, ça a dérivé, entre autres, ici dans le village où c'est saint patron des. Voilà, les gens chercheront ou le savent déjà.
Oui, des gens qui portent des cornes, hein, dit-on généralement.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Et d'ailleurs, l'étiquette de la bière, c'est le visage de Jean Goulf. Hein.
Voilà,
si je m'abuse.
C'est tout à fait le visage qu'on retrouve et sur les bouteilles, les cartons, les sous-bocs. Nos flags, etc. C'est le visage de la statue de Saint Jean Goulf qui est au-dessus de l'ancien lavoir, à côté de l'église, dans une alcôve comme ça, statue en bois qui a été repeinte. Et donc on a choisi de prendre son visage parce qu'il a été repeint donc, il y a quelques années, mais il n'a pas été super bien refait. Et ce qui lui a valu, le pauvre, d'avoir, comme on dit, un œil qui dit merde à l'autre. Et c'est ça qui nous a justement intéressés. On s'est dit, bah, tiens, voilà, il y a cette petite originalité-là qui fait que ça lui donne en même temps un air assez sympathique et puis qu'il peut bien coller avec un produit comme la bière, quoi.
Oui, un peu mystérieux aussi, hein, une espèce de jeu d'ombre.
Voilà. Et puis, c'est moi qui m'en suis occupé de la charte graphique. Et là, le but, c'était aussi d'avoir un visage comme ça, juste en polychromie, de façon à pouvoir, quand on le met sur les cartons et sur nos étiquettes, comme une espèce de tampon, comme ça, c'est assez facilement reconnaissable parmi les autres bières.
Oui, en effet. Et ça fait combien d'années là que ça a commencé?
Ah ben, ça fait 11 ans. Donc, ça fait, voilà, on va dire les deux, trois premières années, bon, ben ça, voilà, c'était vraiment juste comme ça entre nous et ça se développait un petit peu comme ça, mais juste vraiment tout autour de nous, les amis et la famille. Et ça a pris vraiment de l'importance, je veux dire, on va dire en gros, il y a à peu près 8 ans maintenant, quoi. Où là, ça s'est vraiment développé beaucoup plus et c'est là on a créé alors une coopérative, etc., pour... pouvoir encore plus exploiter le produit.
D'accord. Donc au départ, vous avez commencé avec une blonde à 6 degrés, quelque chose, hein,
c'est... Voilà, tout à fait, oui. À 6,1, oui.
Et là, maintenant, il y en a plusieurs, il y en a d'autres. Il y a une légère, notamment, une bio. Hein, qui est...
Voilà, ça, la bio, c'est la petite dernière. Donc il y a une blonde qui titre à 3,9. Donc moins forte en alcool qu'une pils, mais beaucoup plus intéressante en goût et en arôme. Et ce qui en font vraiment une bière vraiment idéale pour l'été. D'ailleurs, depuis l'année dernière, on a un succès fou avec elle. Parce que c'est la bière qu'on peut même boire bouteille comme ça, après avoir tondu la pelouse sous le soleil. Et on peut alors se désaltérer, non seulement avec une bière qui est pas trop forte, qui permet de pouvoir continuer à travailler si on a encore du courage, mais une bière qui est quand même encore suffisamment riche justement en goût et agréable, et en plus elle est bio, donc voilà, comme ça on se fait vraiment pas de mal.
C'est vraiment une excellente idée, c'est le genre de bière qui manque un peu en Belgique, hein. On est quand même adepte de bières plutôt fortes, Et voilà, quand on doit prendre la route ou qu'on fait de la moto ou comme on doit un peu tordre la pelouse après, c'est vrai que c'est pas plus mal d'avoir une bière qui a du goût. Hein.
Plus
Si je l'ai
dangereux la
goûtée,
moto
elle est
aussi.
très très bonne. Alors il y a une bière aux champignons aussi, hein.
Oui, qu'on fait maintenant depuis, oh, ça fait 5-6 ans maintenant qu'on fait notre Jean Goulf au cep. Donc on a choisi le cep de Bordeaux, plus pour ses arrière-goûts de sous-bois et de noisettes en fait, plus que pour le goût de champignons. Sinon on aurait pris la garrigue champêtre et puis on aurait fait une bière aux champignons. Mais l'idée d'avoir une bière qui goûte le champignon, on ne trouvait pas ça super attirant. Donc on s'est dit non, on va plutôt prendre, voilà, c'est le cep qui a pour particularité là justement, ce qui en fait un champignon d'exception, c'est justement ces fameux arrière-goûts de noisettes comme ça, et qu'on pourrait alors retrouver dans la bière assez finement. Et ça nous permet d'avoir justement une bière atypique. Et donc pour pouvoir faire notre Jean Goulf au cep, bah, il est impératif pour pouvoir retrouver ces goûts-là d'y mettre du cep. Et d'y mettre justement la bonne quantité au bon moment pour pouvoir juste avoir ces fameux arrière-goûts, quoi. Donc souvent les gens nous disent, ah ben ça goûte pas vraiment le champignon. Non, justement, c'est voilà, on est allé chercher le cep juste pour pouvoir aller justement chercher ces goûts atypiques comme ça qui en font cette bière vraiment originale.
Et à propos d'aller chercher le cep, vous avez été les chercher vous-même?
Mais au départ, en fait, au départ, donc quand j'avais encore le temps d'aller cueillir et quand il y avait encore des belles places justement ici tout près, parce que ça a quand même été assez bien déboisé, il faut le dire, j'avais quand même pas mal de places où là, bah, j'allais chercher suffisamment en quantité que pour pouvoir les couper en lamelles et les mettre au congélo, mais aussi de pouvoir les couper en lamelles et les faire sécher devant le feu et puis de pouvoir les mettre en bocaux. Et donc là, à l'époque, j'en avais quand même encore pas mal. Et quand il nous est venu l'idée de faire une deuxième bière, c'est ce que j'ai proposé aux copains. C'est, je leur ai dit, bah, tiens, on ferait bien une ambrée au cep parce que le cep séché comme ça dégage pas mal d'arômes et on le mettrait en infusion comme du thé, quoi, au moment de l'ébullition, quoi. Et donc c'est comme ça qu'on est parti là-dessus.
D'accord. Et elle a eu un prix, non? C'est
Eh ben, elle en a eu deux maintenant. Donc, elle en a eu un premier il y a 5 ans, donc quand on venait de la sortir, et qu'on a eu pas mal de bons retours de gens comme le chef étoilé de la Grappe d'Or. On a eu Christophe Gillard de Miorges Mioublon à l'époque, qui nous avait dit, ouh là, vous tenez vraiment quelque chose, ça vaudrait la peine de la présenter à un concours. Et donc on l'avait présenté au Mondial de la bière, au Bruxelles Beer Challenge, où on a eu le prix d'excellence. Et puis là, on s'est dit, tiens, on retenterait bien le coup parce qu'on l'a revisité, on l'a encore affiné un petit peu depuis. Et là, bah, maintenant, 5 ans après, donc cette année, on l'a présenté au Concours international de Lyon. Donc comme ça, en plus du cep de Bordeaux, bon, ben bah, voilà, on s'est dit que ils allaient se sentir encore plus concernés. Et là, on a eu la médaille d'or.
Ah oui, carrément.
Voilà. On
ça
ne
c'est
pouvait
quand même
pas faire
chouette hein,
mieux.
comme expérience j'imagine.
Ah oui, puis disons que c'est. Voilà, les prix et les médailles, c'est vrai que ça vaut ce que ça vaut. Hein, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais bon, en même temps, c'est pas forcément le label d'une qualité comme ça. Enfin, pour nous, on se dit quand même que, surtout à partir du moment où c'est, voilà, que ça se répète. Et puis moi, je sais bien, par exemple, pour ma part, moi qui suis pas plus amateur de vin, par exemple, vous voyez, bah, quand je vais choisir un vin pour un souper ou quoi, ou à offrir. Bah, comme je ne m'y connais pas beaucoup plus que ça, plus que de regarder la date et le prix, bah, je vais regarder justement la récompense qui va avec. Et on est sûr au moins, peut-être pas forcément d'avoir le meilleur des vins, mais on est sûr quand même d'avoir quelque chose de bon. Et là, je vais dire en l'occurrence, bah, nous pour nos bières, bah, parce que la blonde aussi a été récompensée d'une médaille d'argent à Lyon aussi l'année dernière, bah, on doit bien, enfin, on a quand même ressenti fortement sur les ventes que c'était appréciable, oui.
Et vous exportez à l'étranger aussi?
On exporte, ben forcément, on est tout près, donc on exporte en France, on
Oui, c'est vrai
exporte,
que c'est pas très loin.
oui, voilà, c'est ça, donc, mais on exporte quand même, et sur le Luxembourg, et puis là maintenant, on a commencé un petit peu sur l'Italie, on est sur un bon coup pour la Suisse. Et en plus, donc le point de départ vraiment central pour la diffusion du produit se ferait à Saint-Gingolph, Donc, à savoir que voilà, j'engouffre à plein de dérivés en fait de noms. Et là, c'est carrément le village ou petite ville visiblement de Saint-Gingolph qui est au bord du lac Léman et qui est vraiment un village à cheval frontière franco-suisse.
D'accord.
Donc voilà. Et puis on a aussi exporté en son temps, mais là, ça a été un one shot. Quand même un conteneur 40 pieds à Shanghai.
Ouf, ah oui,
voilà.
Carrément.
Et là, on est sur le Brésil aussi. Voilà.
Eh bien, quelle aventure. Voilà. Hein.
Ce n'est pas encore des grosses quantités, mais c'est plutôt sympa. Ça fait des choses à raconter, quoi, qu'on peut mettre dans notre petite escarcelle. Et puis,
voilà. Je comprends ça, oui. Ouais, on doit être fier quand même d'une histoire comme ça.
Voilà.
Eh bien. On va faire une petite pause musicale, hein, peut-être, okay. Avant de passer à la suite.
On va lancer un peu.
Et puis, on pourra peut-être faire une petite visite après.
Pourquoi pas.
Allez, à tout de suite, chers auditeurs, chères auditrices.
Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'Eulenspiegel et de ses cousins et d'arrière-cousins de Bruegel l'ancien. C'est plein de vent du nord qui mord comme un chien, le porc qui dort, le ventre plein. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de verres pleins qui vont à kermesse comme vont à messe vieilles au matin. C'est plein de jours morts et d'amour gelé. Chez nous y'a que l'été, que les fillettes encore. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de finissants qui soignent leurs souvenirs en mouillant de rire leurs poiluchons blancs. C'est plein de débutants qui soignent leurs véroles en caracolant de Prosit en Skol. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de coffres d'hommes, c'est plein d'Amsterdam. C'est plein de mains d'hommes au groupe des femmes. C'est plein de mes mères qui ont depuis toujours un sein pour la bière, un sein pour l'amour. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'horizons à vous rendre fou. Mais l'alcool est blond, le diable est à nous. Les gens sans Espagne ont besoin des deux. On fait des montagnes avec ce qu'on peut. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main.
Et une fois que ça c'est terminé, on renvoie tout ça via une pompe dans la cuve filtre, où là ben, on fait ben, justement la filtration, où là on va récupérer uniquement donc, le moût, qui va être de nouveau ramené via le petit hublot qui est là, de nouveau ramené, comme elle a été vidée forcément puisque toute la matière est partie dans la cuve filtre. Donc on a vidé, rincé la cuve de travail en question et on ramène de nouveau tout le moût dans cette même cuve de travail de départ où là, on va laisser faire la filtration à un certain rythme pour justement avoir un taux de sucre final, etc. Donc qui va être de 14, 16, 18 degrés plateau suivant ce qu'on veut comme alcool, etc. Et on va remplir notre cuve de travail et en même temps l'amener à ébullition avec un système de chauffe qu'on a ici, nous, en dessous, avec une espèce de colimaçon comme ça qui est,
ah oui,
où il y a, voilà, où il y a de l'eau à 116, 117 degrés qui passe et qui va faire qu'on va pouvoir alors amener notre mou à ébullition et rajouter alors le houblon qui va venir aseptiser la bière, amener certains arômes, mm-hmm. amener de l'amertume, etc. Ensuite, tout ça, après un certain temps, ça c'est suivant les bières, tout ça va être refroidi via, si vous me suivez ici, via le refroidisseur à plaque qui est ici, voilà, qui ressemble à une espèce de ruche, qui est en fait un enchevêtrement de plaques, dans lesquelles, dans une sur deux, c'est de l'eau froide qui va circuler,
ah, oui, oui.
et l'autre, c'est le mouchot qui va arriver. Donc le mouchot va arriver donc, ici à peu près à 100 degrés, pour ressortir à 20-21 degrés.
D'accord.
Qui est la température vraiment idéale pour pouvoir ajouter directement notre levure.
Oui, oui, d'accord. Voilà. Oui, il n'y avait pas encore de levure.
Voilà. Donc là, jusque-là, on a juste les sucres, etc. Notre mou ressort à super bonne température, donc entre 20 et 22 degrés, pour être envoyé dans nos cuves, bah, si vous me suivez.
Oui.
Voilà. Donc ici, on a notre...
Ah oui, d'accord.
On a à la fois nos cuves... De fermentation. Donc là, le mou arrive dans nos fameuses cuves de fermentation, où là déjà, ben, au préalable, ça a été évidemment nettoyé, désinfecté, etc. Et donc le mou arrive, coule ici dans nos cuves, reste en milieu clos et aseptisé. On rajoute directement notre levure. Et puis une fois qu'on a rempli tout ça, ben, on laisse faire la fermentation pendant, là aussi ça varie, 4, 5, 6 jours. Ensuite, une période de garde. Et puis sur la fin, après une quinzaine de jours, on fait donc un refroidissement, comme ça, grâce au système de refroidissement que vous avez là dans la cuve ici à côté, qui va venir précipiter en fait tous les dépôts. Donc on amène notre mou à peu près à 4 degrés. Et voilà, comme ça, c'est un peu comme l'effet frigo, hein, quand vous prenez une bière, justement artisanale, que vous la mettez au frigo. Vous pourrez remarquer que toutes les levures viennent se plaquer dans le fond. Là, on est en gros un peu sur un même principe.
D'accord.
Qui permet de venir éclaircir un maximum la bière et d'avoir un minimum de particules fines qui, parfois, nous amènent certains soucis par la suite, que là,
d'accord.
on n'a pas. Et voilà.
Donc, c'est des cuves de 2500 litres. Hein. Je vois
voilà,
ça parce que c'est écrit
fait.
Dessus.
Nous, on ne les remplit pas, jusqu'au-dessus. On fait 2 à 3 brassins. Donc, on arrive entre 1200 et 1800 litres dans la cuve, ce qui nous permet de garder un vide au-dessus pour que la fermentation se fasse de façon bien ventilée aussi. Quoi.
Ils sont emballés dans un matériau isolant, là, c'est pour...
Justement, en fait, nous, c'est un système un petit peu aussi artisanal et puis que beaucoup connaissent aussi. Donc, pour pouvoir justement refroidir notre bière, ce sont des tapis dans lesquels circule l'eau froide, en fait. Donc,
d'accord, oui, oui.
Qui se fait ici dans la cuve de refroidissement et puis donc via le conduit là qui est en colimaçon dans cette cuve d'eau froide là qui est maintenue froide par le refroidisseur. Et ben, c'est un principe du bire-couleur, hein, vous voyez les pompes à bière.
Ah, oui.
Et donc là ben, l'eau est passée là-dedans, refroidie fortement et ensuite passe dans les tapis ici qui sont,
oui, okay, je vois.
Voilà,
oui, oui.
qui sont eux-mêmes isolés. Et puis voilà au contact de la paroi là où vous pouvez voir, hein, c'est, y a une condensation qui est faite. Et là, déjà, ben, on est en train de tout doucement, comme ça, faire ce cold crash, c'est comme ça que ça s'appelle, qu'on l'appelle, et donc de venir refroidir et précipiter justement tous les résidus, etc., et la levure et tout dans le fond. Donc là, on est déjà en train de faire descendre ça pour justement samedi, parce que samedi, on met en bouteille, donc on précipite, et ensuite, pendant une paire de jours avant, on laisse de nouveau quand même un petit peu remonter pour qu'au moment de la mise en bouteille, il n'y ait pas un choc trop non plus du contact de la bière froide avec la bouteille un peu plus
d'accord.
chaude et qui va faire que la condensation va venir nous embêter pour l'étiquetage en fait. Voilà.
Et je vois qu'il y a un écran de contrôle là. C'est...
Ben voilà, tout à fait. Donc là, on peut voir que là, pour le moment, ben, on est descendu déjà à 7,1. Voilà.
D'accord.
À l'instant, donc de 7,2 à 7,1. Puis on va encore... diminuer comme ça jusqu'à à peu près entre 3 et 4 degrés.
D'accord.
Voilà.
Bah, c'était ça. Voilà. Moi, j'étais venu visiter, mais il y a longtemps, fermentation, c'est encore dans des cuves en plexi, si je ne m'abuse.
Oui,
enfin,
oui, tout à fait. Oui, donc ça, oui, ça date.
Oui, ça remonte à quelques années. Et alors, les choses ont bien changé. Hein. C'est quand même
un
matériel quasi professionnel. Enfin.
Oh, vous. Oui, on est à mi-chemin, quoi. Donc là maintenant, oui, c'est entièrement tout inox alimentaire. Et puis, faut faire attention, hein. On travaille quand même avec quelque chose de vivant, hein. Donc ça doit être bichonné, hein. Faut pas brusquer les choses et la bière et tout ça, et la levure et tout. Il y en a beaucoup qui disent la levure, c'est comme une demoiselle, faut y aller doucement quand même. Pour qu'elle,
C'est une jolie image, hein.
Oui,
Mais c'est difficile de faire la bière, hein.
ben c'est, voilà, c'est ça. En fait, faire de la bière, c'est pas trop compliqué. Faire de la bonne bière et puis être constant, être stable, là, c'est là que ça se corse. Et c'est là qu'il faut être justement méticuleux et qu'il faut être assez drastique, etc., dans les procédures, surtout les procédures de nettoyage aussi, l'air de rien. Donc, ça prend du temps, mais c'est nécessaire pour pouvoir faire un bon produit.
Oui, on peut facilement avoir des contaminations
Ah
qui vont tout polluer pour
Ah
finir,
oui. Bah,
j'imagine.
d'ailleurs, je pense que tout brasseur sera passé par là, plus ou moins, mais voilà. Et donc nous, on a tiré des leçons, voilà. On a eu une mauvaise expérience pendant un temps que beaucoup de gens ont pu aussi malheureusement partager avec nous. Mais là maintenant, ils savent aussi très bien que là, depuis je touche du bois, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, on n'a plus de soucis et on fait en sorte que ça continue comme ça, oui.
Ah oui, c'est important. Hein, la première cuve, là, c'est les dresches, on appelle ça, les résidus de malt.
Voilà, tout à fait. Donc, ce qu'on va retenir dans la cuve filtre, c'est donc on va retenir les dresches qu'ensuite on donne aux cultivateurs ici du coin. Donc, comme c'est fait à Orval, où là, ben, à Orval, forcément, ils viennent avec des remorques énormes pour chercher tout ça. Nous, ici, ben, on met ça dans un gros bac, sur une plus petite remorque. Voilà. Mais ça fait
Ouais.
toujours plaisir aux cultivateurs et aux bêtes, justement, parce que c'est quand même quelque chose qui est plutôt agréable pour les bêtes à manger,
Ouais.
parce que voilà, c'est pas spécialement très nourrissant, mais c'est assez agréable de par le fait que c'est sucré.
Ouais,
Donc,
ça
c'est une
un peu
petite friandise,
appétant.
voilà, qu'on donne aux bêtes du coin, et puis voilà quoi. Donc on a deux, trois comme ça, cultivateurs du coin, qui viennent régulièrement alors chercher, ou alors on l'amène directement chez eux.
D'accord. Et alors là, la dernière chose, ici c'est la...
La cuve de soutirage, en fait, voilà.
Donc quand la
Donc
bière est finie en fait.
bah, voilà, donc quand on a fini justement la garde et le cold crash, etc., et tout ça, donc on ramène alors tout ça de nouveau ici dans notre salle de production. Dans la cuve ici, dans la cuve de soutirage. Donc, à savoir en gros que ben, pendant la fermentation et la garde, le schématise toujours, hein, mais la levure donc est allée consommer les sucres qui étaient là. Et puis, ben, de la levure, ben, il en reste encore à un moment donné, mais il n'y a plus de sucre. Et la levure reste là un petit peu en suspens et à attendre de pouvoir encore un petit peu consommer, ce qui est très bien. Parce que nous, c'est pour ça que. Mais il faut doser justement comme il faut la levure pour pas qu'il y en ait trop, parce que pour éviter les surmoussages aussi, en partie. Hein, ça. Et donc là, à ce moment-là, quand on ramène toute la matière ici, tout le moût ici, alors ben, on fait un petit peu quelques calculs, quelques prélèvements qui vont nous amener à savoir que pour pouvoir mettre en bouteille et avoir justement une bonne mousse, mais pas trop, et pas trop peu, on va après nos calculs savants. Je plaisante, mais voilà, on va pouvoir voir voilà le taux de sucre qu'il faut qu'on rajoute. Ce qu'il y a, c'est que tous les premiers sucres qu'on a pu tirer au départ, on a pu les tirer du grain. Là, ben, c'est plus possible.
Oui, bien
Donc
sûr.
là, du coup, on doit rajouter du sucre liquide, mais on prend du sucre de betterave tout à fait naturel, etc., qu'on rajoute alors, voilà la quantité qu'il faut pile poil, qu'on rajoute, qu'on mélange pendant 1 heure. Pendant cette heure-là, on a le temps de préparer notre ligne d'embouteillage. Et puis ensuite, alors on peut commencer à mettre en bouteille, où là-bas, ben, on charge les bouteilles vides, qui sont directement étiquetées avec une étiquette autocollante qui fait tout le tour de la bouteille, qui passe devant le laser ici avec le numéro de la date de péremption et le numéro de l'eau, pour arriver ici ici en dessous du fameux manège, là, pour que le soutirage à proprement dit se fasse. Donc les bouteilles sont poussées dans les canules, remplies. Elles ressortent, elles arrivent ici dans le manège un peu plus petit ici, où là elles sont capsulées. Et ensuite elles arrivent ici au bout du tapis, où là on les met dans les cartons, on emballe et on renvoie de nouveau dans la pièce là d'où on vient, qui est aussi notre chambre chaude, pour une refermentation bouteille pendant aussi 2 semaines. D'accord, donc, il y a une première fermentation qui se fait en cuve, où là, c'est l'alcool qui va être fait, et où là, des gaz vont s'échapper, etc., mais vont pouvoir sortir par les barboteurs que vous aviez au-dessus de la cuve, là. Mais là, ici, il y a une refermentation qui va se faire, mais qui, elle, est gardée sous vide avec... avec la capsule.
Ah oui. Oui, quand on dit qu'on remet du sucre dans la bouteille, c'est pas vraiment dans la bouteille, en fait, c'est dans la cuve.
Oui, oui, c'est dans la, c'est, oui, oui, c'est dans la cuve.
Il faut ça Orval aussi, les trappistes en général font
oui,
ça.
Oui, mais de toute façon, une refermentation naturelle est nécessaire pour pouvoir justement avoir la mousse et le pétillant de la bière. Hein. Ce qu'il y a, c'est que par exemple, pour...
Une pils, ils font ça aussi
Non, justement, c'est ce que j'allais dire. Des pils de grec de la rulle, oui, c'est fait aussi de cette façon-là. Mais le pétillant de la bière, pour, on ne va pas citer de nom, mais pour la plupart des pils qui sont vendus un petit peu partout, d'autres bières vraiment vendues en grosse quantité dans les supermarchés, là, le gaz est rajouté directement. C'est pas fait de façon naturelle, c'est pas fait par une refermentation.
Ah bon?
Voilà.
Moi, je ne savais pas. Voilà. Enfin, voilà. On en apprend des choses, sur Radio Sud. c'est bien. Allez, encore un autre petit morceau de musique pour fêter ça.
Oui.
À tout de suite.
À tout de suite.
Viens me voir, on ira boire ce doux nectar jubilatoire qui nous rend fous, qui nous rend flous, qui donne le goût d'être entre nous et de chanter, puis de scraper le karaoké qu'on a loué la veille. Pauvres de nos oreilles, les chansons sont éternelles, mais le soleil lui se réveille. Oh, de la bière, s'il vous plaît, donnez-moi de la bière pour oublier que je passerai pas l'hiver. De la bière, pour oublier que je mérite pas de dessert. De la bière. S'il vous plaît, donnez-moi de la bière pour oublier que je verrai pas la mer. De la bière pour oublier tout ce que j'ai laissé en arrière. Sobre et noble ne sont pas nos nuits d'octobre qui, devant un hot dog, finissent par tirer la plug de nos vies. Déjà 3h30, y a l'argent qui s'enfuit de nos poches et nos amis qui marchent un peu croche. Moi je connais ces gens qui ne pourraient pas vivre autrement qu'en espérant ces soirées plutôt bien arrosées, où tout le monde commence par chanter, où tout le monde finit par crier. Oh, de la bière, s'il vous plaît, donnez-nous de la bière pour oublier qu'on passera pas l'hiver. De la bière, de la bière pour oublier qu'on mérite pas de dessert. De la bière, s'il vous plaît, donnez-nous de la bière pour oublier qu'on verra plus la mer. De la bière pour oublier tout ce qu'on a laissé en arrière.
Alors, on vient de goûter, une Jean-Goule blonde qui est tout à fait délicieuse, je vous la conseille vraiment. Donc, on a parlé de la bière blonde, de la bière au cèpe, je pense qu'on a un peu parlé de la bio.
Un petit peu de la bio, oui.
Vous allez dire, c'est moins fort qu'une pils, mais ça a plus de goût qu'une pils.
Tout à fait. En gros, on peut dire que ça, c'est quand même nettement plus agréable à boire, oui.
Voilà. Et alors, je vois aussi des cartons avec une étiquette dorée jaune et rouge, là, c'est...
C'est un petit peu africanisé. Le pourquoi, c'est parce qu'en fait, on cherchait à faire une bière pour compléter un petit peu la gamme, une bière rosée. Mais on s'est dit, tiens, on aimerait bien ne pas faire, juste, enfin, faire quelque chose déjà, encore une fois, d'original, mais on ne voulait pas partir forcément sur du fruité sucré, comme ça se fait en général pour les rosés. Et donc, alors qu'on était en train de chercher une idée, on a un ami qui est sénégalais, il s'appelle Papi Sembe, et qui nous a dit, bah, écoutez les gars, moi je vous entends parler, vous cherchez un goût un petit peu particulier comme ça à faire pour une rosée. Et nous, il y a quelque chose qu'on boit énormément au Sénégal et dans d'autres pays africains, c'est le bissap. Et on dit, mais le bissap, c'est quoi exactement? Il dit, bah, c'est une espèce de sirop. C'est une macération qui est faite à partir de la fleur d'hibiscus séchée. Et on en fait un sirop rouge vif comme ça, qu'on mélange au même titre que la grenadine ici chez vous, avec de l'eau. Et donc ça donne une boisson, justement, contrairement comment à la grenadine qui est justement fruitée et sucrée, là on est plus sur de l'acidulé comme ça. Et ça en fait vraiment une boisson hyper désaltérante. Donc il nous a fait goûter ça. Effectivement, ça a été concluant et tout ça, puis dans la couleur et tout, vraiment très très bon. Et on s'est dit, bah, tiens, on partirait bien là-dessus. Et donc, voilà, c'est ce qui a donné naissance. Alors, donc, on fait notre macération et tout nous-mêmes, qu'on rajoute à un moment bien défini aussi, un petit peu avant à la mise en bouteille, pour en faire alors une bière rosée qui va être alors, plutôt que d'être fruitée, va être florale, et plutôt que d'être sucrée, va avoir une pointe d'acidulé comme ça, qui vont en faire une bière hyper désaltérante. Donc, elle n'est pas très forte non plus, elle est à 4,5. Et là, en fait, là, j'ai changé un petit peu l'aspect graphique de l'étiquette et du packaging, où comme c'est justement un ami africain, donc sénégalais, qui nous a donné l'idée, et ben voilà, pour lui renvoyer la balle et le remercier, ben, on a africanisé l'étiquette. Et là, même le visage de Jean Goulf ressemble plus à un masque africain, comme ça, en bois, et puis voilà, mais on le reconnaît quand même, malgré
Oui,
tout,
tout à
grâce à
fait.
son strabisme.
Je confirme, on le reconnaît bien qu'il soit fort, fort transformé, hein, c'est chouette.
Voilà. Voilà, donc, puis là, comme ça rajoute encore un petit peu de couleur à la gamme, et puis on part encore sur quelque chose d'encore bien différent, quoi, parce que c'est quand même ça le but. C'est on a déjà que, entre guillemets, quatre produits qu'on maîtrise bien maintenant, mais on est sur quatre produits bien différents, comme ça, au moins, ça fait un petit peu voyager, on va dire, voilà.
Et vous avez des partenariats avec d'autres brasseries, si j'ai bien compris.
Oui.
Enfin, partenariat ou collaboration, je ne sais
Voilà,
pas.
tout à fait. Donc là maintenant, comme ça s'est développé quand même plutôt pas mal, mais que pour info, quand même pour le rappeler, ben, on fait ça à côté de notre travail. Donc on est tous à temps plein dans notre boulot respectif. Et on fait donc nos bières après journée et puis le week-end. Mais il y a un moment où, ben, dans notre espace-temps, on va dire, on n'arrive plus à faire rentrer ça dans ça. Et donc on a dû alors faire appel à un ami brasseur ici de la région, parce qu'on voulait que ça reste en Gaume aussi. Et donc on a fait appel à Daniel Le Cire de chez Mille Vertus, qui a bien voulu accepter. Je pense que ça lui a fait plaisir aussi, parce qu'on s'entend bien en plus. De bien vouloir alors brasser notre blonde maintenant chez lui et la bio, qui sont les deux produits qui se vendent le plus et pour lesquels on a besoin de plus de production. Et comme ici, ben, on fait des brassins de 600, 650 litres et que chez lui, il fait des brassins de 3000, ben, ça nous
Ah oui,
fait
d'accord, oui.
forcément gagner énormément de temps, quoi. Donc voilà. Donc certaines personnes vont peut-être se dire, ben ouais, mais c'est un peu dommage parce que c'est plus brassé là sur place. Nous, on se dit aussi, à contrario, que bon, ben, ça fait quand même maintenant 11 ans qu'on brasse nous-mêmes. Je pense qu'on a fait nos preuves et puis que là, c'est légitime de se tourner comme ça vers un ami et de lui demander de reprendre nos recettes
Ben
qui
oui, c'est
restent
votre
les mêmes.
recette,
Et
hein, c'est
puis,
votre
oui, voilà, tout
création.
à
Hein.
fait, de toute façon. C'est là qu'on se dit, bon, bah, on ne fausse pas trop la chose non plus, quoi. Mis à part que, ben voilà, là où il faudrait justement qu'on ait des cuves plus grosses pour pouvoir, voilà, ben lui, il les a. Et puis, lui, c'est son boulot principal. Et donc, autant se tourner vers quelqu'un comme ça, de confiance, un professionnel en la matière, et qui va nous assurer une qualité de produit, et qui en plus est un ami, et ici en Gaume, donc c'est parfait, quoi.
Ben oui, voilà. Je sais pas très loin non plus, hein.
Ah non, non, bah, c'est à Brevannes. Donc on est ici à Villers, donc voilà, c'est à une douzaine, 12-15 kilomètres, un truc comme ça. Donc,
oui, donc c'est parfaitement du local, hein, donc voilà.
Ça reste local.
On va laisser les esprits chagrins se chagriner.
Voilà, tout à fait, et oui, bien dit. Mais il n'y a pas lieu d'être, hein. c'est justement, il ne faut pas chagriner, ça nous permet de pouvoir en avoir suffisance encore, justement, voilà, pour ceux qui l'apprécient, ben, ils retrouveront le bon goût de la jangoule de toute façon, et puis voilà, hein, c'est... Et ils pourront en boire en plus grosse quantité, voilà. C'est
la bonne idée. Que demander de plus, alors, voilà. J'ai vu sur le parking, là, une vieille camionnette, oui. C'est Citroën, hein, je pense.
Tout à fait, oui.
Oui, oui. C'est un type assez cubique, comme ça, enfin, voilà, parallélépipède.
Bah, c'est ce que certains appellent, oui, c'est ce que certains appellent un tube, mais ce n'est pas tout à fait le tube. Les tubes, c'était jusqu'en 48. Et là, c'est un type H. Donc, c'est la camionnette du feuilleton L'Huile à Brocante. Voilà,
voilà, comme ça, vous voyez.
Voilà, comme ça, ça fait une petite référence. Et puis là, ben, toute jaune avec le logo de la jangoule dessus, avec des fleurs dessus, parce que on s'est dit, ce serait bien de partir sur un état d'esprit un peu flower power, comme ça, des années 70, parce que c'est un véhicule de 68. Et puis voilà, un peu de fraîcheur, un peu de couleur, comme ça, ça, je pense que ça fait du bien par les temps qui courent.
C'est un beer truck, hein, en quelque sorte.
C'est devenu un beer truck, oui, on l'a aménagé de cette façon. Et ben, quelques-uns auront eu le bonheur de pouvoir venir s'y accouder. On n'a pas pu encore forcément, par les temps qui courent, pouvoir faire beaucoup d'événements, parce que beaucoup d'événements sont tombés à l'eau. Mais on a bon espoir, d'ici l'année prochaine, de pouvoir sortir un petit peu plus avec et de la faire découvrir aux gens, quoi.
Oui, en tout cas, elle est vraiment magnifique, hein. C'est un beau véhicule. Je trouve un peu triste que les véhicules du passé sont quand même plus jolis que ceux qu'on fabrique de nos jours, en général. Enfin, c'est un avis personnel, ça, c'est... Enfin, quoi qu'il en soit, celle-là...
Avec moi, déjà. Voilà.
Et donc, on parlait de beer truck. Il y a aussi un food truck, hein, qui vient le vendredi soir, hein. Donc, oui. C'est la friterie MU, hein, qui vient ici devant la brasserie pour...
Voilà.
On n'a plus de friture, on n'a pas de friture à Villers-de-Ventorval, donc c'est quand même bien d'en avoir une fois par semaine.
Voilà, tout à fait. Donc, il vient tant que possible. Il essaie de se maintenir à venir tous les vendredis. Donc, les gens ici de Villers qui ont plaisir à passer ici le vendredi soir, après une bonne journée de boulot, et d'avoir le bonheur d'avoir une friterie ici tout près, comme ça, ici, ben, carrément à l'entrée du village, et c'est plutôt sympa. Mais il est vrai que des fois, il ne peut pas venir parce que il est aussi demandé quand même à gauche, à droite, sur des mariages, etc. Et tout ça, hein, parce que c'est assez à la mode de faire appel justement à des food trucks pour des mariages, des communions, des anniversaires et tout. Mais sinon, en général, quand même, il essaie de se tenir un maximum à pouvoir venir ici tous les vendredis soirs pour le plus grand bonheur de beaucoup de gens, je pense, parce qu'avoir le monde qu'il y a, ça marche plutôt pas mal, oui, ça plaît bien.
Ben oui, oui, surtout qu'il n'y en a plus, hein, comme je le disais. Donc, puis les frites, c'est tellement bon. Hein, donc,
oui, donc on va se plaindre. Les siennes en particulier, donc avec ses burgers. Donc voilà. Parce que c'est toujours ça, hein, les friteries. Comme ça ne marche que tout simplement si les frites sont bonnes et que la friterie est bien tenue, propre, etc. Et que le personnage est sympa, ben voilà, ça n'a pas de raison de ne pas tourner.
Oui, oui, tout à fait. C'est la chose qui me dépasse chaque fois des gens qui travaillent dans une friture, qui ne savent pas faire des frites. Je me dis comment c'est possible, quoi.
Ah ben oui, mais en général, ça ne dure pas très longtemps, je pense.
Ben non. Hein.
Voilà, parce que justement, les gens ont le choix. Hein, donc, c'est pour ça, là aussi, c'est pareil pour les bières. Donc, les gens ont le choix maintenant. Il n'y a qu'à regarder presque trop dans les magasins et tout ça. Les rayons débordent de bières différentes comme ça. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile. Et qu'il faut impérativement garder une bonne qualité de produit maintenant et d'être original pour que les gens s'y retrouvent chez nous à choisir nos produits, quoi.
Mmh, tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a encore une journée porte ouverte qui est prévue ou...
Ben, on y pense. Là, normalement, ce qu'on fait depuis quelques années, tous les ans, ben, sauf évidemment l'année dernière, ben, c'est de faire une porte ouverte, enfin un week-end porte ouverte en même temps que l'abbaye d'Orval. Et donc, comme ça, y a tellement de gens qui vont justement aux portes ouvertes de la brasserie d'Orval que quand les gens repartent, ben là, on va dire les deux premières années, on mettait des petits flyers sur les voitures pour leur dire, ben ne rentrez pas tout de suite, si vous poussez un petit peu plus loin, il y a une autre petite brasserie qui vaut la peine d'être vue et visitée aussi. Et très vite, on a eu notre petit succès aussi. Et donc, où là, ben justement, c'est le genre d'événement où on fait appel à des gens comme Sandro de la friterie Mu pour venir ici aussi dans la cour avec deux, trois petits artisans du coin aussi qui viennent profiter de l'événement et du monde. Et puis voilà, donc puis, normalement, on avait aussi des événements comme entreprise, porte ouverte en entreprise, ah oui. Wallonie bienvenue, puis notre propre porte ouverte qu'on fait aussi à un moment dans l'année. Et puis, on fait aussi, les gens de Villers connaissent bien, on fait tous les ans, à peu près à la période de Noël, un petit peu avant, on fait le verre de l'amitié, où là, pendant 2 heures, voire 3, on offre à boire, enfin, avant tout, aux gens de Villers, et puis aux partenaires et aux amis, comme ça, qui gravitent autour de la brasserie. Et là, c'est vrai que tout ça, ben, avec la Covid, ben, ça n'a pas été évident à mettre en place, et là encore cette année ça a bougé un petit peu plus, mais ça reste quand même un petit peu timide encore, donc on a privilégié encore les événements qui se font à l'extérieur, et j'espère que d'ici l'année prochaine on refera, parce que nous le demande, mais ça demande toute une organisation justement avec toutes ces fameuses restrictions, etc. Tout ça, ça demande encore plus d'organisation, et donc on attend que tout ça ait décanté un petit peu, soit un petit peu calmé pour pouvoir faire ça de façon plus sereine.
Et puis la bière, elle sera que meilleure. Hein.
Peut-être bien, oui. Voilà, mais elle sera peut-être encore plus attendue, etc. Donc, bon, voilà, quoi. C'est... Ouais. Bah, il est clair que vu la demande qu'on a comme ça régulièrement, des gens qui nous disent et quoi, à quand la prochaine porte ouverte, bah, on se réjouit évidemment de pouvoir, ouais. Le faire. Mais plus le temps passe et plus on a envie de le faire encore mieux, puisque le temps aura passé et on a envie de faire un événement quand même qui soit justement à la hauteur de l'attente.
D'accord. Eh bien voilà, je pense qu'on peut rester là, on a appris plein de trucs. Merci beaucoup. Hein.
Eh bien de rien, avec grand plaisir.
Et donc voilà, et pour acheter l'argent goule, je sais qu'il y en a au Deleuze de Florentville en tous les cas.
Ah oui, il y en a dans... Bah, ici dans la région, c'est quand même dans pas mal d'endroits. Donc rien qu'ici à Flo, oui, il y a le Deleuze, il y a le Carrefour GB, il y a l'Intermarché, il y a le magasin bio, il y a aussi même à Ma Part des Anges. Enfin voilà, il y a quelques endroits comme ça où vous pouvez l'acheter pour l'emporter ou même la boire sur place, justement, en l'occurrence de Ma Part des Anges. Mais aussi à boire sur place, ben, il y a ici à l'Hostellerie d'Orval et puis oui. Une bonne partie des...
Oui, un peu partout dans les restaurants, les cafés, brasseries, oui.
À Florentville. Et puis après, bah, aux alentours aussi, hein, on nous retrouve quand même, allez, on va dire, dans un rayon d'à peu près 30-40 km, on nous trouve quand même dans pas mal d'endroits, quoi. Et aussi, bah, simplement au Luxembourg, le Pal Center, Cactus, voilà. Oui, même au Cora Messancy, voilà, il y a quand même pas mal d'endroits.
Ah oui, c'est quand même... Ouais. Pour une bière artisanale, c'est quand même une belle diffusion. Hein.
Oui, et en même temps, bon, ça reste encore... ça reste encore...
local.
Local, et oui, et puis voilà. Donc forcément, on espère faire encore plus. Mais là, ce qui nous manque, forcément, c'est le temps, quoi, pour le démarchage, etc. Et tout ça, mais bon, on y pense. Mais là, pour le moment... Vu ce qui se passe, on se dit que ça peut encore attendre et de pouvoir justement vraiment sortir les armes de la prospection au moment plus opportun. Quoi.
Oui, bah oui, la période Covid n'est pas encore tout à fait terminée. Hein.
Malheureusement.
Voilà. D'un côté, on dit qu'on va bientôt plus porter de masque. Et puis de l'autre côté, on dit qu'on va resserrer les boulons, donc aller comprendre quelque chose.
Oui. Mais ça, c'est un autre débat.
Voilà. Alors, on ne va pas parler de ça. Hein. On a eu l'occasion de parler de bière.
Voilà. Une jorgoule fait, évidemment.
Eh bien, tout grand merci, hein, que tout se passe bien. Merci d'avoir accueilli Radio Sud dans vos locaux et d'avoir pris du temps pour faire la présentation et d'expliquer un peu tout ça. Et donc, quand il y aura un jour des portes ouvertes, un événement, ben, on ne manquera pas d'en parler sur les ondes de Radio Sud, éventuellement de venir faire une autre émission pour,
pourquoi pas.
Aller pour témoigner un peu de tout ça. Hein. Un grand merci. Hein.
Je vous en prie. À bientôt.
à la brasserie Jean Goulf de Villers-de-Vortorval. Alors quand vous sortez de la brasserie Jean Goulf, vous tournez à gauche. Et puis un petit peu plus loin, il y a un pont avec une direction, Herbeval, 3 km. Et il ne faut pas aller jusque-là, il faut s'arrêter bien avant. Le mercredi, en tous les cas, il y a le marché de Villers-de-Vortorval. Alors là, nous sommes proche de l'équinoxe d'automne, donc ce qui nous amène relativement proche de ce qui est le plus connu maintenant comme étant la fête d'Halloween, mais qui dans le temps, du temps des Celtes, s'appelait la Samhain. Et alors pour essayer de commémorer un peu cet événement, le marché de Villers-de-Vortorval a organisé une fête du potiron. Alors je vous propose d'aller jusque-là et de voir un peu ce qu'il en est. Je me suis lancé dans une aventure un peu audacieuse et j'ai voulu interviewer un potiron. Et non, vraiment, il n'a absolument rien voulu dire. Les courges non plus, les pâtissons sont restés tout à fait muets. Et donc voilà, j'ai bien dû trouver quelqu'un qui allait me répondre à mes questions, à savoir, mais que se passe-t-il donc ici au marché de Villers-de-Vortorval? Alors, ben, pour finir, après une personne ou l'autre, non, moi je ne veux pas, je n'aime pas parler à la radio, etc. Et bien, il y a Mona qui est là et qui, elle, veut bien nous parler.
Qui est la personne la moins récalcitrante, en tout cas.
Oui, voilà. Alors, que se passe-t-il, en fait? C'est pourquoi faire une fête du potiron, comme ça, au marché de Villers-de-Vortorval?
Ben, parce que c'est la fête de la courge aujourd'hui, et que sur le marché de Villers-de-Vortorval, on aime bien les événements, on aime bien faire la fête, on organise régulièrement, quand quelqu'un a envie d'un concert, d'un spectacle, on ouvre les portes. Et alors aujourd'hui, Mana est revenue avec une énorme récolte de potirons, pour fêter la fête de la courge, pour mettre les potirons, toutes les courges en valeur.
D'accord. C'est le monsieur qui joue du ukulélé, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Un grand monsieur crelet noir avec des longs cheveux. Hein, voilà.
C'est lui.
Voilà, on ne peut pas le louper, hein?
Non.
D'accord. C'est lui qui a une grosse remorque là, de courge.
C'est ça.
D'accord.
Toute la remorque de courge devant nous.
Alors, il y a aussi des pâtissons, il y a des courgettes à farcir. Donc, il y a beaucoup de choses, hein.
Pour faire des bons plats.
Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a pas de tonnelle parce que le ciel est magnifique. Il fait tout bleu, ni trop chaud, ni trop froid. Alors bon, voilà, si vous avez l'occasion de venir au marché de Villers-de-Vortorval. Et en plus, il y a un concert aujourd'hui. Hein.
Il y a un concert à 2h30. Voilà. Un guitariste.
Voilà, c'est Thibaut hein, qui a un projet troubadour, je pense.
Lui, je ne le connais pas. Ben donc, voilà. C'est à découvrir pour moi aussi.
Eh bien voilà, donc je viendrai tout à l'heure faire une captation pour un peu voir et vous faire écouter tout ça. Alors Mona, grand merci, que tout se passe bien.
Merci beaucoup.
Voilà.
À bientôt.
Convulsive des ventres funéraires, accouche de revenants aux yeux pâles et meurtris, parmi les os broyés des squelettes en poussière, couronnés de lauriers desséchés et flétris. De généreux harpies aux aboiements lubriques offrent leurs cellulites et leurs nichons blafards à des quelconques fouines en robe synthétique, fendues jusqu'au néon de leur croupe aux vipères. Graphique d'un trip au bord du vide, où le danseur en croix sodomise un lépreux, devant les caméras ça tourne à l'air fétide, de la pensée commune aux troubles nauséeux, la nuit de la Samhain,
sainte citrouille Halloween,
carnaval souterrain,
lampion dans les latrines,
la nuit de la Samhain,
gueule de pine Halloween,
Jocris et palotin. Je vois des cavaliers qui te sucrent tes tours sur l'échiquier barbare au style Mahomet étant. Et puis ta reine en garde et tes pions qui les bourrent en cramant la mosquée où je fume en afghan. Projection primitive d'un logiciel sans fin, j'attends la fleur féline aux yeux mouillés de chrome, sous le plumage poisseux des regards clandestins, rivé sur le cockpit de mon vaisseau fantôme. La nuit de la Samhain,
sainte citrouille Halloween,
carnaval souterrain,
lampion dans les latrines, la nuit de la Sama.
Gueule de bine Halloween,
Jocris et Palotin,
sulfateuse endocrine.
La vidéo mentale projette sur mes capteurs les magots populaires hystériques et banales d'un égout surpeuplé de monstres tapageurs en quête d'une orgie sur l'écran terminal. La Sama, Sainte Citrouille Halloween, carnaval souterrain, lampion dans les latrines. La nuit de la Sama,
gueule de pine Halloween,
Jocris et Palotin, sulfateuse endocrine. La nuit de la Sama,
Sainte Citrouille Halloween,
carnaval souterrain, lampion dans les latrines. La nuit de la Sama,
gueule de pine Halloween, Jocris et Palotin, sulfateuse endocrine.
Chères auditrices et chers auditeurs de Radio Sud, c'est ainsi que se termine cette émission Et là-bas, hein, Et là-bas, vous savez, l'émission qui vient de tellement loin que c'est juste à côté. Donc nous étions à la brasserie Jean Goulf et au marché de Villers-de-Ventorval. Alors vous avez entendu la bière hein, de Jacques Brel, ensuite Émile Blondeau qui parle aussi de bière, et Hubert-Félix Stéphen qui nous parlait de la Sama, hein, vous savez, donc ce qui est en fait la base de la fête d'Halloween. Alors pour terminer l'émission, je vais vous laisser écouter la totalité de la chanson du générique qui est Et là-bas de Tao Ravao et Vincent Bucher. À bientôt.